Il est 14h sur France Culture, l'heure d'Entendez-vous l'écho. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Jordan Fuentes. Préparez vos pancartes et vos slogans, l'heure de la grève a sonné.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
C'est le deuxième épisode de notre série consacrée à la grève, 48 heures avant la grande mobilisation du 5 décembre. Hier, nous étions sur les barricades, à l'époque où la grève était un délit passible d'une peine de prison. Demain, nous calculerons le coût de la grève et ses répercussions sur la croissance. Mais d'abord, entrons dans la tête des agents économiques que sont les grévistes. Patrons, syndicats, ouvriers, sont-ils rationnels? La science économique a tenté de répondre à cette question en modélisant le comportement des uns et des autres. Dans cette émission, nous allons convoquer John Hicks, l'optimum de Pareto et la théorie des jeux. Accrochez-vous, il est 14h sur France Culture et nous avons une heure devant nous pour entendre l'écho. Le gréviste est-il un homo economicus? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités, à Thomas Breda, économiste chargé de recherche CNRS, et Jean-Édouard Colliard, professeur à HEC. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Allô? Allô?
Quoi? Une grève? Eh ben alors, il m'en fait que ça. Sur mon usine qui s'est mise en grève.
Ah moi aussi, je me mets en grève. Il meurt.
Qu'est-ce qu'il dit?
Rien.
Allô? Je leur interdis de faire la grève. Vous m'entendez?
Non! Je vous dis non!
Alors, écoutez-moi. Vous faites comme d'habitude. Vous promettez tout et moi, je ne donne rien.
Salomon! Une voiture! Ah! Ah!
Bonjour Thomas Breda et Jean-Édouard Colliard.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez reconnu Louis de Funès en patron irascible et réac dans Les aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry. Alors Victor Pivert, qu'il incarne dans ce film, est-il un agent rationnel? C'est en tout cas peut-être ce que la science économique a tenté de modéliser.
Ah, possible.
Thomas Breda.
Il faudrait voir tous les tenants et aboutissants de son choix, mais il est possible qu'effectivement bluffé, comme il dit qu'il va le faire, soit une attitude rationnelle ou utile dans une grève pour obtenir ce qu'on souhaite obtenir et obtenir gain de cause.
Jean-Édouard Colliard.
Oui, moi je trouve qu'il y a deux choses qui sont intéressantes en fait dans cette citation et dans ce choix, c'est qu'il y a le comportement du patron qui peut être rationnel, effectivement, s'engager à ne rien donner, ne jamais lâcher, établir une réputation, etc. Ce sont des choses qui ont été beaucoup regardées par les théoriciens. Il y a une autre chose qui est plus surprenante, c'est de dire on fait comme d'habitude, vous promettez des choses, je ne donnerai rien. Et ça c'est moins rationnel et ça suppose que les salariés en face ne sont pas rationnels. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui jouera un rôle dans les modèles dont on discutera après.
C'est en tout cas John Hicks, l'économiste John Hicks, qui est peut-être le premier à avoir modélisé le rapport de force entre patron et salarié. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer le point de départ de sa réflexion, Thomas Breda?
Alors, le point de départ, c'est que si on peut se mettre d'accord tout de suite, pourquoi attendre pour le faire et se faire mal en attendant? Ça, c'est le grand point de départ qui pose des problèmes économiques quand on essaye de modéliser les grèves comme quelque chose de rationnel. C'est-à-dire que tant qu'on fait grève, on perd ce qu'on peut produire pour l'entreprise, on perd son salaire quand on est salarié. Donc, il y a une perte et on arrive à la fin de la grève à un accord, enfin, on espère, dans un certain nombre de cas. Et on peut se dire, mais finalement, si les agents avaient été rationnels, pourquoi se sont-ils pas mis d'accord tout de suite et ils auraient ainsi évité le coup de la grève? Et donc, c'est tout le challenge, la difficulté des modèles économiques, c'est d'essayer de répondre à ce paradoxe.
Et alors, je vous propose d'écouter une lecture extraite de son ouvrage « La théorie des salaires », ouvrage paru en 1932.
Il y a beaucoup à apprendre sur l'action syndicale, ses possibilités et ses limites, en examinant les circonstances susceptibles de faire pencher l'employeur en faveur d'une alternative plutôt qu'une autre. Tout d'abord, il est évident que plus le salaire demandé est élevé, plus le coût de la concession sera élevé, et donc, plus il est susceptible de résister. D'autre part, plus il s'attend à ce que la menace de grève dure longtemps, plus il a de chances de céder. Maintenant, laissons de côté pour le moment toutes les autres choses dont son choix dépendra. Supposons toutes choses égales par ailleurs et concentrons-nous sur ces deux-là, Nous pouvons alors établir un barème des salaires et des durées de grève en fixant à l'opposé de chaque période d'arrêt le salaire le plus élevé qu'un employeur sera prêt à payer, plutôt que d'endurer un arrêt de travail pendant cette période.
Ce que nous dit ici John Hicks, Jean-Édouard Collière, c'est que l'employeur, mais aussi le salarié, va devoir réaliser un calcul face à un risque de grève, ce qui pose la question de la capacité, si on commence avec l'employeur par exemple, la capacité de l'employeur à estimer le coût de la grève ou à évaluer la motivation des salariés à la poursuivre.
Oui, voilà. Et en fait, d'ailleurs, ça rejoint assez bien finalement l'extrait du début, c'est-à-dire qu'on suppose que l'employeur effectivement est capable de faire un calcul en se disant si je cède maintenant, il faut que je donne tel salaire, ou sinon la grève continue et donc je perds de la production. Les salariés, plus ou moins rationnellement aussi, font leur calcul et se disent je perds du salaire aujourd'hui, mais c'est pour obtenir un salaire super dans le futur. Mais en fait, aucun des deux ne prend en compte que l'autre est rationnel. Donc chacun pense que l'autre est irrationnel ou qu'il y a une erreur en tout cas d'anticipation, et ce qui aboutit sans quoi ils pourraient se mettre d'accord aujourd'hui sur le salaire qui serait obtenu à l'issue de la grève. Donc c'est ce qui s'appelle le paradoxe de Hicks, qu'a très bien expliqué Thomas.
Et ce que dit John Hicks, c'est que la résistance des syndicats, qui correspond à leur demande de salaire, diminue à mesure que les concessions des employeurs augmentent, et c'est comme ça que les courbes se croisent, et donc il faut atteindre ce moment où les courbes se croisent.
Voilà, exactement. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc on a retenu un petit peu le paradoxe de Hicks, mais à la base, c'est dans un ouvrage qui s'appelle « La théorie des salaires », et donc le but n'est pas tellement d'avoir une théorie de la grève, parce qu'en fait c'est une assez mauvaise théorie de la grève, qu'on explique finalement par le fait que les gens se trompent de manière un peu irrationnelle et on sait pas trop comment. En fait c'est plutôt une théorie du salaire, et c'est une théorie qui est importante. John Hicks est l'un des fondateurs de toute la macroéconomie d'après-guerre. C'est une théorie importante parce que dans la théorie keynésienne, on a besoin d'un mécanisme pour lequel le salaire n'est pas un salaire de marché, ne s'ajuste pas à la baisse, etc. Et donc dans cet ouvrage, en fait, il y a une théorie un petit peu syndicale de la fixation du salaire et qui explique tout un tas de problèmes macroéconomiques et un rôle pour la politique macroéconomique, etc.
Et il y a un certain nombre de paramètres qui entrent en jeu. Par exemple, la résistance des syndicats sera plus ou moins forte selon qu'ils auront accumulé des fonds qui permettent de rémunérer les salariés pendant la grève. Il y a toute une série de facteurs comme ça qui entrent en jeu, Thomas Breda.
Oui, absolument, qui peuvent jouer. Alors, ce modèle-là de X initial a été rationalisé un peu plus tard, dans les années 70, un peu plus formalisé mathématiquement, par deux chercheurs qui ont pris une approche un peu politique du syndicat. Alors, il y a eu, dans les années 40, il y a deux grands théoriciens du syndicalisme qui se sont affrontés, qui sont Dunlop et Ross. Dunlop a poussé pour qu'on voit le syndicat comme un tout, avec une fonction objective, qui cherche à maximiser sous des contraintes, donc un problème d'optimisation économique assez classique. Et puis Ross avait une vision plus politique. Il disait non, c'est un ensemble d'intérêts, le syndicat, il y a des leaders syndicaux qui veulent faire ci, il y a des syndicalistes de base qui veulent faire de la base, qui veulent faire comme ça, et donc il faut agréger tout ça, c'est compliqué, il y a des tensions au sein du syndicat. Et donc lui, ces deux chercheurs, ils ont repris cette intuition de Hicks, et ils ont dit mais en fait, le leader syndical, lui, sait peut-être que le patron va résister de telle manière, voire qu'il va résister complètement, c'est-à-dire que le syndicat va rien obtenir, mais il a besoin de faire croire à ses syndicalistes qu'il a quand même essayé d'obtenir quelque chose. C'est-à-dire que s'il revient vers ses membres et qu'il dit « Ah ben en fait non, là j'ai discuté avec le patron et il n'y a absolument rien à obtenir, terminé, on revient l'année prochaine », ça va mal se passer pour lui. Donc il dit « Regardez, on va faire la grève, on va essayer d'obtenir quelque chose ». Donc la rationalisation ici vient pas du fait que l'employeur et le syndicat peuvent se mettre d'accord avec Santé, mais plutôt qu'il y a des problèmes d'information au sein du syndicat. Et que c'est pour résoudre ces problèmes-là ou pour la crédibilité des leaders qui ont besoin de se mettre en grève.
Cette dimension politique, c'est un paramètre de plus, tout comme d'autres paramètres encore si l'on se place du côté de l'employé, par exemple. Il va peut-être céder plus facilement ou plus rapidement ou céder plus tardivement s'il a des stocks importants à disposition, s'il peut embaucher du personnel intérimaire. Tous ces paramètres, il faut les rassembler pour arriver à modéliser les comportements des uns et des autres.
Oui, alors si on veut vraiment avoir une espèce de théorie complète et empirique, par exemple surtout sur une analyse empirique, on va vouloir faire ça, c'est-à-dire avoir le plus de variables possible pour expliquer le comportement des uns et des autres. Sur le plan théorique, les modèles théoriques en général s'embarrassent pas d'un tel luxe de détails, puisque les effets que vous décrivez sur le plan théorique sont assez clairs. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le dit déjà Hicks, en fait, c'est-à-dire que tout ce qui va rendre la grève moins coûteuse pour le patron va lui permettre de tenir plus longtemps, tout ce qui va rendre la grève moins coûteuse pour l'employé va lui permettre de tenir plus longtemps, etc. Et donc tout ça est assez clair. Ce qui a été regardé un petit peu aussi empiriquement et qui est intéressant, c'est notamment comment tout cela évolue au cours des cycles économiques. Par exemple, aux États-Unis, on avait observé assez tôt qu'il y avait plus de grèves quand l'économie allait bien, en fait.
Et donc, justement, et comment on l'explique ça?
Parce que l'idée, je pense, c'est que quand l'économie va bien, ça devient plus probable que le patron soit prêt à faire des concessions parce qu'il a un carnet de commandes qui est plein et donc pour lui, la grève est extrêmement coûteuse et donc c'est plus facile de le faire céder potentiellement. Mais pour les salariés, ils ont aussi plus d'options, etc.
Les salariés ont plus d'options parce qu'ils peuvent plus facilement trouver du travail ailleurs, par exemple.
Voilà. Et donc, tout ce genre de choses ont été regardées à la fois sur le plan théorique et aussi empiriquement, mais même dès cet article de 1969, en fait, il y a déjà une partie empirique avec les données de l'époque qui sont pas d'une richesse, qui pour les standards d'aujourd'hui sont une richesse assez limitée. Mais donc très tôt, en fait, ça a joué un grand rôle, essayer d'expliquer un petit peu ces faits stylisés qu'on voit dans les données.
On va faire des allers-retours dans cette émission entre le théorique et l'empirique. Je vous propose d'écouter maintenant le point de vue du syndicaliste Franck Mérouz, qui est membre de la CGT.
À partir du moment où on est en grève, le salarié va perdre lui aussi beaucoup d'argent. Ça, c'est le premier point. Et puis, la question qui est évoquée, effectivement, et là aussi, ça va peut-être vous surprendre de la part d'un syndicaliste CGT, c'est qu'une grève, y compris pour notre organisation syndicale, c'est un constat d'échec. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu se mettre d'accord avec une direction sur un certain nombre de revendications et que la seule issue pour l'organisation syndicale et pour les salariés afin de se faire entendre, c'est effectivement d'appeler à cesser le travail, mais ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'on engage un tel mouvement. C'est la dernière solution, c'est le blocage de l'entreprise, c'est l'ultime rapport de force et effectivement, je pense qu'il est dommage dans notre pays qu'on n'ait pas suffisamment ressources à ce dialogue social dans de bonnes conditions qui permettraient, à mon avis, à de nombreuses reprises d'éviter le conflit.
La grève comme constat d'échec, vous êtes d'accord avec cette vision, Thomas Breda?
Ça rejoint exactement le paradoxe de Higgs dont on parlait au départ. C'est-à-dire que si on arrive à négocier correctement, normalement, que toute l'information disponible est présente au moment où on négocie, etc., on devrait pouvoir le faire tout de suite. Mmh. Et donc, d'où l'idée du constat d'échec. Sauf si on vient à mettre en avant d'autres explications, ce qu'on va sans doute faire, non?
Jean-Édouard Colliard.
Oui, ça rejoint tout à fait X et aussi à Schoenfelter et Johnson, l'article dont on parlait à l'instant, où en fait dans cette théorie un petit peu de la grève où les leaders syndicaux montrent à leur base qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, en fait j'ai plus en tête exactement la phrase utilisée dans l'article, mais l'idée c'est vraiment que la grève est un moyen d'ajuster les attentes des salariés, hein, à la réalité économique de l'entreprise. Donc en fait, c'est un peu un aveu d'échec pour le syndicat qui n'a pas réussi à transmettre cette information autrement que par une action coûteuse. Mmh. Donc c'est effectivement un des messages qui sous-tendent plusieurs papiers dans la littérature.
Et alors cette modélisation de X, de John X, elle comporte un certain nombre de limites, et notamment le fait que X estime que les acteurs dont il parle ont une information complète, ce qui en réalité n'est jamais le cas, Thomas Breda.
Oui, effectivement, il suppose que... C'est d'ailleurs le présupposé nécessaire pour pouvoir dire qu'on se met d'accord à l'avance, et qu'on sait tout, on peut anticiper les conséquences d'une grève, on peut anticiper que si on fait grève 10 jours à la fin, on se mettra d'accord là-dessus, donc pourquoi ne pas le faire tout de suite? Et du coup, les modèles de grève qu'on dirait davantage micro-fondés, je ne veux pas utiliser de gros mots, mais qui utilisent de la théorie des jeux plus sophistiquée, font appel à des problèmes d'asymétrie d'information, à savoir qu'on ne sait pas, on va négocier sur un gâteau qu'on va se partager entre un syndicat et un employeur, et une entreprise, mais on ne connaît pas bien ou un côté de la table, en l'occurrence le syndicat, ce n'est pas exactement la taille du gâteau sur lequel il négocie.
Donc l'évolution de la grève va dépendre en grande partie de l'information et de la façon dont elle circule, Jean-Édouard Colliard.
Oui, exactement. En fait, ça rejoint même un problème peut-être encore plus profond en microéconomie. C'est-à-dire dès 1950, en fait, on avait des premières théories de la négociation avec John Nash, etc., et qui sont des théories très paradoxales, où en fait la négociation a lieu immédiatement, il n'y a pas d'offre, de contre-offre, de jeu, etc. Parce que justement, si les gens sont tous rationnels, ils peuvent parfaitement anticiper tout le jeu, et donc ils se mettent d'accord instantanément. Et donc c'est évidemment une assez mauvaise théorie descriptive des négociations, mais c'est un bon point de départ pour la théorie, parce que ça permet de réfléchir à quelles sont les hypothèses qu'il faudrait rajouter pour avoir quelque chose de plus réaliste. Et donc il y a eu toute une réflexion autour de ça, dont l'une des applications a été notamment la grève, parce que pour les économistes, c'était un cas intéressant de négociation où il y avait des données, où on pouvait observer ce qui se passait. Et puis en plus, c'est évidemment une négociation qui est importante sur le plan économique.
On va revenir sur Nash et sur sa théorie des jeux, bien sûr. Mais d'abord, peut-être qu'il faut expliquer que dans le modèle économique standard, les individus sont censés disposer d'une information parfaite. Ça, c'est vraiment l'un des paramètres de la théorie néoclassique.
Ça dépend un petit peu ce qu'on appelle la théorie standard et la théorie néoclassique. Il y a autre chose aussi à prendre en compte, c'est une distinction entre information parfaite et entre information symétrique ou asymétrique. C'est-à-dire dans la théorie la plus classique, Darrow, Debreu, théorie de l'équilibre général, concurrentiel, etc., les gens n'ont pas forcément une information parfaite. Il y a de l'incertitude, plutôt du risque dans l'économie, et qui est du risque probabilisable, etc. Et les gens sont capables très bien de gérer ça. Et en fait, c'est ce qui fonde toute la théorie de la finance, la théorie néoclassique de la finance, est basée sur un monde où l'information n'est pas parfaite, où on apprend des choses, etc. En revanche, il y a un problème plus important, mais qui en fait était très bien compris d'ailleurs par tous les théoriciens les plus néoclassiques que vous voudrez, mais qui était difficile à modéliser avant des grosses avancées en théorie des jeux, c'est le cas de l'information asymétrique. C'est-à-dire, c'est pas seulement que tous les deux, nous ne savons pas s'il fera beau demain ou pas, c'est que peut-être vous savez quelque chose que moi je ne sais pas, et réciproquement. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et évidemment, ça, c'est très pertinent dans le cas de la grève.
Et par exemple, dans le modèle de l'équilibre général, qui est élaboré par Walras à la fin du 19e siècle, l'information est symétrique?
Alors, dans Walras, oui, mais donc ça a été le... Donc ça c'est vraiment très bien. Donc ça c'est vraiment l'origine. Mais donc après dans les réinterprétations après-guerre,
vous parliez Darrow.
Voilà, donc notamment dans les travaux Darrow et Debreu, en fait étendre ce cas-là à un cas d'information incomplète mais symétrique, mathématiquement c'est presque trivial en fait. C'est juste une modélisation un petit peu supplémentaire à faire, mais en fait ça ne change pas. Enfin c'est très riche en termes d'application. En termes de modélisation et de résultats mathématiques, ce n'est pas un changement très profond. Il y a juste un peu un génie de modélisation derrière, c'est tout.
Thomas Breda.
On doit quand même supposer que les agents peuvent mettre des probabilités sur des événements.
C'est ça,
qui peuvent
ce que
se
j'appelle
passer,
la modélisation.
On ne sait pas tout, mais on peut mettre des probabilités sur ce qu'on ne sait pas. Mmh. 30% de chances que ça, tel événement arrive, qui donc m'expose à un risque que je peux quantifier.
Mais c'est une théorie, en tout cas, c'est une hypothèse de l'information, alors parfaite ou symétrique, selon comment on l'appelle, qui a été remise en question aussi par quelqu'un comme George Tigler au début des années 60, avec cette idée que la collecte d'informations, ça représente un coût, Jean-Édouard Colliat.
Oui, tout à fait. C'est amusant d'ailleurs de prendre l'exemple de George Tigler, parce que lui, c'est vraiment, c'est l'école de Chicago, etc. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, les gens qui sont intéressés à ça, étaient des gens d'une tradition plutôt assez micro. Et donc tout
donc,
à fait.
Donc, plutôt du côté des néoclassiques, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, j'aime pas trop cette distinction néoclassique, non néoclassique. Enfin bon, mais oui, en tout cas, voilà, donc école de Chicago. Et donc chez lui, effectivement, donc la collecte d'informations a un coût, ce qui implique que certains vont payer le coût, d'autres ne vont pas payer le coût. Donc ça enrichit beaucoup. Par exemple, en finance, ça a mené à des applications extrêmement importantes de qui acquiert de l'information sur les entreprises. Ceux qui acquièrent de l'information vont pouvoir l'utiliser sur les marchés, ils vont avoir un avantage par rapport à ceux qui ne l'ont pas acquise, etc., etc. Donc tout ça, ça a été un paradigme extrêmement riche.
C'est une dimension importante parce qu'en effet, si l'information est asymétrique et si l'information a un coût, ceux qui disposent de plus d'informations que les autres vont avoir un pouvoir supérieur aux autres, Thomas Breda. Et là, ça introduit cette dimension et cette notion de pouvoir dans le rapport de force entre patrons et salariés, mais pas seulement.
Oui, effectivement, le fait de posséder l'information quand l'autre partie ne la possède pas va donner un avantage, et du coup c'est là qu'on va arriver petit à petit à ces modèles de grève qui permettent d'extraire l'information. C'est la révolution permise par les modèles de théorie des jeux des débuts des années 80, où on a ces modèles de négociation où les gens se font des offres, des contre-offres, et on enchaîne ainsi de suite, qui permet de rendre compte de la grève comme phénomène cherchant à mettre fin à une asymétrie d'information. Et donc à extraire l'information sur quelle est la profitabilité de l'entreprise, quelle est vraiment la taille du gâteau qu'on négocie. Faire grève permet d'obtenir cette information.
Eh bien, on va voir comment justement la théorie des jeux propose un autre modèle pour penser les comportements. On va en parler dans un instant.
Thank you. Come all of you good workers, good news to you I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell.
Which side are you on? Which side are you on?
My daddy was a miner and I'm a miner's son, and I'll stick with the Union till every battle's won.
Which side are you on? Which side are you on?
They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair.
Which side are you on? Which side are you on?
Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man?
Which side are you on? Which side are you on?
Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Us poor folks haven't got a chance unless we organize.
Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on?
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
C'était Which Side Are You On de Pete Seeger. Thomas Breda et Jean-Edouard Collière sont toujours avec nous pour parler des modèles conceptuels qui permettent de penser la grève. Alors venons-en à cette fameuse théorie des jeux. En quoi est-ce qu'elle permet, Jean-Edouard Collière, de mieux penser le comportement des différents acteurs économiques et notamment des salariés en grève?
Oui, alors c'est une très bonne question. Donc en fait, il faut voir que l'économie au début, on avait surtout des théories, des marchés concurrentiels. Donc avec beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, et donc tout le monde prenait le prix comme donné, donc comme chez Valras que vous avez mentionné. Et donc on avait des bonnes théories de ça. Et évidemment, en fait, la grève, et c'est un peu tout le point de X, ça consiste à dire, bah, oui, en fait, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que les salaires, notamment, ne sont pas forcément fixés sur un marché concurrentiel. Ils sont fixés entre un patron et un syndicat. Vous avez un acteur économique contre un acteur économique. Et donc là, on ne sait pas ce qui peut se passer, en fait. Donc on avait déjà des théories depuis les années 20 de ce qu'on appelle le monopole bilatéral, mais on n'avait pas de très bonnes théories pour bien comprendre ce qui se passait.
Donc il a fallu élaborer un nouveau modèle.
Voilà, on ne l'a pas fait pour ça. C'est-à-dire que John Nash n'est pas un économiste, il ne s'intéressait pas à ça. La théorie des jeux est née de von Neumann et Morgan Stern. Donc Morgan Stern était un économiste autrichien, mais von Neumann était plutôt un mathématicien. Et donc, il se trouve qu'en fait, on a mis très longtemps avant de comprendre que ça avait un intérêt pour l'économie. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu attendre les années 80 pour que vraiment ça rentre un petit peu dans les mœurs.
Oui, parce que c'est dans les années 50 que John Forbes Nash, donc, qui est mathématicien, a mis au point ce qu'on appelle l'équilibre de Nash. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cet équilibre, Thomas Breda?
Alors, le point, vraiment, la révolution de la théorie des jeux, c'est qu'on n'est plus dans un contexte où le prix coordonne c'est ce que Jean-Edouard disait, les actions de tous les agents. Donc on est dans un contexte où ce qui va m'arriver à moi dépend de ce que vous allez faire, de ce que Jean-Edouard en face de moi va faire. Ma situation est directement affectée par la situation des autres agents. Alors, on peut pas modéliser avec de la théorie des jeux, du coup, ou c'est plus difficile en tout cas, des jeux avec des millions d'agents. C'est surtout quelque chose qu'on utilise, enfin au début, pour rendre compte d'interactions entre un nombre limité d'agents. Dans ce type de contexte, l'équilibre de Nash, c'est la situation dans laquelle, étant donné les actions de l'autre, ou des quelques autres joueurs, mon action à moi est optimale. C'est-à-dire que je vais pas avoir intérêt à dévier pour aller jouer une autre action. Ça, on peut le formaliser très simplement. Un jeu de Nash, c'est un jeu où il va y avoir N joueurs, mettons 3 joueurs, ils ont chacun un certain nombre d'actions possibles, et en fonction des actions que je fais moi et des actions des autres, j'ai un certain paiement, un certain bien-être, si vous voulez, une certaine utilité. L'équilibre de Nash, c'est la situation où on a un ensemble d'actions de la part de chaque joueur qui est telle que
aucun d'entre eux n'a intérêt à dévier pour aller jouer une autre action.
Alors je vous propose d'en voir et d'en entendre plutôt une illustration, puisque John Nash a été incarné à l'écran par Russell Crowe dans le film Un homme d'exception.
Il faut revoir Adam Smith.
Mais de quoi est-ce que tu parles?
Si on attaque tous la blonde, on se fait tous obstruction. Et personne ne se la fait. Alors on se rabat sur ses copines. Et elle nous envoie valser parce que personne n'aime être un deuxième choix. Mais si personne n'attaque la blonde, on ne se court-circuite pas les uns les autres, on n'insulte pas les autres filles. C'est le seul moyen de gagner. Le seul pour s'en faire une chacun. Adam Smith a dit que pour atteindre leur but, il faut que les membres du groupe s'occupent d'abord d'eux-mêmes. C'est ça, c'est ce qu'il a dit, pas vrai ? C'est incomplet, incomplet. Parce que pour un résultat optimum, il faut que les membres du groupe s'occupent à la fois d'eux-mêmes et du groupe.
Nash, si c'est pour finir par te faire la blonde tout seul, va te faire voir.
C'est la dynamique de l'univers, les mecs. La dynamique de l'univers. Adam Smith avait tort.
Voilà, alors au-delà du sexisme de la métaphore, Jean-Édouard Colliard, en quoi est-ce qu'Adam Smith avait tort selon Nash ?
Oui, alors j'ai jamais très bien compris en fait ce passage du film, je dois dire, parce qu'il illustre parfaitement une situation qui justement n'est pas un équilibre de Nash.
Ah, bah très bien. Démonstration par le contraire.
Non, donc là c'est très intéressant. Donc c'est-à-dire que si je reprends les termes du problème, donc très bien, donc tout le monde veut sortir, disons, avec cette magnifique blonde, bon, parfait. Et donc la solution proposée par Nash, c'est que personne ne s'en occupe, et comme ça, chacun peut sortir avec une autre des brunes, j'imagine. Dans la séquence.
C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de son intérêt, mais aussi de l'intérêt des autres.
Oui,
c'est ça qu'il
fait,
veut dire ici.
Mais juste en fait, sauf que l'équilibre de Nash, c'est pas ça du tout. Donc justement, cette situation n'est pas un équilibre de Nash, parce que dans cette situation-là, si vous pensez que personne ne va s'occuper de la blonde, vous avez intérêt. Je suis désolé d'ailleurs, du coup, j'utilise des termes un petit peu. Enfin bon, voilà, c'est vous qui m'y avez incité. À ce moment-là, vous avez intérêt à le faire vous-même, puisque et donc ça va marcher. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui se passe dans le film. Et donc justement, un équilibre de Nash, plutôt ici, ce serait une situation dans laquelle les gens, justement, n'arrivent pas à se coordonner, et donc, sachant cela, vont, en fait, tous faire une action qui peut être, par exemple, de tenter leur chance avec cette blonde, pour, au final, arriver à une situation qui est mauvaise pour tous. Mmh. C'est plutôt ça, l'esprit de l'équilibre de Nash.
Vous êtes d'accord avec ça, Thomas Breda ? C'est pas un équilibre de Nash que l'on vient d'entendre ?
Je suis aussi d'accord avec le fait que c'est pas un équilibre de Nash. L'exemple permet aussi d'illustrer le fait qu'il peut y avoir beaucoup d'équilibres de Nash. Ici, c'est un problème de je sais pas comment le dire, mais d'embouteillage, quoi. Donc on veut répartir pour que les hommes en présence maximisent leurs chances dans un monde où les hommes vont tenter leur chance auprès des femmes, puisque c'est de ça dont il s'agit. Dans ce monde-là, et pour maximiser leurs chances, ils ont plutôt intérêt, s'il y a 4 hommes et 4 femmes, à chacun tenter leur chance auprès d'une femme différente. Ça évite les problèmes d'embouteillage. Donc, ils essayent de se coordonner. Et donc, on peut voir 4 équilibres de Nash, ou un peu plus, en fait, c'est l'ensemble des combinaisons possibles où un homme va sur tenter sa chance avec une femme donnée. Donc, ça nous donne un équilibre et ça devient plus un équilibre s'il y a 2 hommes qui s'intéressent à la même femme, parce que peut-être qu'ils auraient intérêt, étant donné ce qu'ils essayent de maximiser à ce moment-là du problème, à avoir un homme pour chaque femme. Et du coup, ça interroge aussi sur, ça amène à voir les problèmes qui sont peu modélisés dans les équilibres de Nash, qui sont les problèmes de la manière dont on converge vers un équilibre plutôt qu'un autre. En l'occurrence, s'il y a la blonde et plusieurs brunes, qui pour la blonde, qui pour les brunes, voilà. Donc il y a des problèmes aussi de très importants en théorie des jeux de fait de il peut y avoir plusieurs équilibres et comment savoir quel est le bon et comment les agents se coordonnent est un autre problème assez important en théorie des jeux.
J'aimerais bien rebondir là-dessus, en fait, parce que ce qui est important, en fait, dans la théorie des jeux, c'est que, donc, une façon de voir la chose, c'est que les gens sont hyper rationnels. C'est-à-dire qu'ils sont, non seulement ils sont rationnels eux-mêmes, mais ils pensent que tous les autres sont rationnels, tout le monde sait que tout le monde est rationnel, etc. Donc ça, c'est une vision un petit peu ancienne, en fait, de la théorie des jeux. Une vision plus moderne consiste à dire qu'en fait, les gens jouent les mêmes jeux plusieurs fois, sont dans les mêmes situations, etc. Et donc, ils apprennent. Et ça rejoint justement la citation de Rabbi Jacob, c'est de la culture aujourd'hui. Voilà.
Quel choix d'extrait
qu'on avait au début. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être tromper les salariés une fois, mais vous pouvez pas les tromper mille fois. Là, ça va être la cité de la peur maintenant, donc c'est pas, on reste dans le cinéma. Et donc, la théorie des jeux, en fait, dit simplement un équilibre, enfin, une façon de voir un équilibre de Nash, c'est si vous avez joué ce jeu de la grève 500 fois, et certains syndicats l'ont fait, du coup, on peut pas imaginer que le résultat soit une surprise pour les joueurs. C'est-à-dire que vos anticipations sur ce que les autres vont faire doivent être à peu près correctes. Et une situation comme ça, c'est un équilibre de Nash.
Un autre exemple qui permet peut-être de bien comprendre cet équilibre de Nash, c'est le dilemme du prisonnier qui a été élaboré par le mathématicien Albert Tucker. Alors, je vous propose de faire une petite simulation. Dans ce modèle, il y a deux prisonniers qui sont, mettons, Thomas Breda, ici présent, et moi-même. Alors, mettons que nous avons commis un crime ensemble et que nous avons été attrapés. Quelles sont les options qui vont nous être proposées, Jean-Édouard Collia?
D'accord, donc je suis le geôlier ou le policier.
Exactement.
D'accord, donc dans le dilemme du prisonnier, typiquement ce que je vais faire, c'est que vous allez être dans, imaginez que vous êtes dans deux cellules différentes et je vais aller vous voir chacun indépendamment l'un de l'autre. Je vais vous dire que je vais voir aussi l'autre personne d'ailleurs, vous savez bien ça. Et je vais vous proposer, je vais vous faire l'offre suivante. Je vais vous dire, c'est très simple, je vais dire aux deux: vous pouvez soit avouer que vous avez fait le crime ensemble, soit vous dites rien. Si vous avouez tous les deux, vous avez, mettons, 5 ans de prison. Si vous avouez et que l'autre n'avoue pas, vous êtes libre. Vous avez 0 ans de prison, mais grâce à vous, je vais pouvoir condamner l'autre. Et si aucun des deux n'avoue, vous êtes libre tous les deux, par exemple. D'accord. Et donc, ce qui va se passer dans cet exemple, c'est que, eh ben, donc voilà, simulons.
Alors, dans ce cas-là, quel choix est-ce qu'on est censé faire? C'est-à-dire que,
donc, est-ce que vous avouez,
on n'a pas le droit de communiquer l'un avec l'autre, non. Donc on ne sait pas ce que l'un et l'autre va faire. Donc, ça veut dire que si vous, Thomas Breda, vous avouez et que moi, je nie, vous allez être libéré et moi, je vais être condamné à 1 an de prison.
C'est ça.
Donc, j'ai tout intérêt, on a tout intérêt à quoi? À nier tous les deux? À avouer tous les deux?
Donc, ce qui se passe surtout, c'est que si vous avouez, en fait, ça ne peut pas aggraver votre situation que si l'autre personne n'avoue pas.
Mais est-ce que le choix le plus rationnel, Thomas Breda, ce serait que nous avouions tous les deux?
Oui, c'est si on reprend cette définition de l'équilibre de Nash comme un équilibre où aucun des joueurs n'a intérêt à dévier pour une autre stratégie, c'est le seul équilibre possible. C'est-à-dire que si moi je n'avoue pas, et que je suppose que vous n'avouez pas non plus, alors j'ai intérêt à me mettre à avouer parce que je vais gagner 1 an de prison, ou plus même peut-être dans l'exemple, mais en tout cas j'ai intérêt à dévier. Donc ce qui serait socialement optimal pour nous deux, socialement au sens de vous et moi, c'est que aucun de nous n'avoue. Comme ça, on va pas trop en prison. Mais dans cette situation-là, moi j'ai intérêt à me mettre à avouer parce que plutôt que de faire 1 an de prison, je vais plus en faire du tout. Mais vous êtes exactement dans la même situation que moi, donc vous avez aussi intérêt à avouer. Et donc, à la fin, on va se retrouver dans cet équilibre qui est une position qui est un équilibre au sens où personne n'a intérêt à dévier, mais qui n'est pas ce qui serait optimal pour nous deux quand on nous prend nos intérêts conjointement, qui serait que tous les deux on nie.
Et tout dépend finalement de la propension du prisonnier à prendre des risques, Jean-Édouard Collia.
Donc dans cet exemple-là, pas tellement. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une différence assez importante entre les modèles avec information incomplète, etc., qu'on a déjà évoqué, où en fait vous avez de l'incertitude sur un événement exogène. Donc en jargon d'économiste, on appelle ça un état de la nature. Donc je ne sais pas s'il va pleuvoir demain, s'il peut y avoir tout un tas d'événements. Et une incertitude qu'on appelle endogène ou stratégique, qui est que vous ne savez pas ce que l'autre va faire. Et donc c'est des choses qui, en fait, conceptuellement, sont extrêmement différentes. Parce que dans un cas, pour savoir s'il pleuvra demain ou pas, c'est une question physique ou météorologique. Savoir ce que Thomas va jouer, c'est une question stratégique et économique, où vous allez devoir former une théorie sur son comportement. Et donc l'équilibre de Nash, c'est en fait un concept où tous les deux, vous allez avoir une théorie sur le comportement de l'autre. Ces deux théories sont compatibles entre elles, et donc notamment dans cette vision petit peu peut-être passéiste de la théorie des jeux. Vous avez tous les deux une théorie juste du comportement de l'autre, et il se trouve qu'en plus c'est la même théorie et l'équilibre de tout ça, et l'équilibre de Nash.
Et le problème, c'est que cette théorie des jeux suppose, comme vous le disiez, que les acteurs soient rationnels, ce qui n'est pas toujours le cas.
Les conséquences de la rationalité limitée, évidemment, elles sont fondamentales. Chacun se comporte rationnellement, mais bien sûr à ses propres yeux, en fonction de ses propres buts. Même si nous ne le comprenons pas, ça a un sens pour lui au moment où il agit. Nous sommes victimes le plus souvent de conséquences du biais d'attribution, de l'idée que nous pensons que, puisque c'est la façon normale d'agir, tout le monde devrait agir de la façon dont nous pensons qu'il est la façon normale d'agir, donc comme nous. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement facile à comprendre, rien de très compliqué, cette idée de rationalité limitée, mais très difficile à appliquer concrètement, à pratiquer. Donc la difficulté n'est pas de comprendre le modèle de la rationalité limitée, mais de comprendre que le comportement des autres a toujours un sens pour eux, mais que nos propres limites nous empêchent de voir que ces limites existent. Nous interprétons les limites de la rationalité de l'autre comme preuve de sa stupidité, son incompétence, sa méchanceté. Or c'est faux, il voit simplement les choses autrement.
Le juriste Jacques Rougeot, cette notion de rationalité limitée, elle a été élaborée par l'économiste Herbert Simon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Thomas Breda, pourquoi est-ce qu'il remet en question la rationalité des agents économiques ?
Alors, il remet en question le fait que chaque agent ait accès à tout moment à l'ensemble des informations qui lui permettent de prendre la décision qui est optimale, d'une part. Et ensuite, il remet en question le fait que, étant donné l'information dont chaque agent économique dispose, il est capable de la processer instantanément et systématiquement de manière à prendre la décision qui est optimale pour lui.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Donc ça signifie que on est à la fois cognitivement limité et on est aussi limité de par l'information dont on dispose pour prendre les décisions de ce qui serait le mieux pour nous.
Et puis peut-être qu'on aura spontanément envie de prendre la première décision qui nous paraît bonne plutôt que d'attendre celle qui serait optimale pour nous, Jean-Édouard Collia.
Oui, ça dépend un petit peu de l'interprétation qu'on a de la rationalité limitée, de ce que les gens en ont fait après. Donc une interprétation possible qui a été poussée par exemple par Kahneman et Tversky, une partie de l'économie comportementale, c'est de dire qu'en fait les gens ont des espèces de raccourcis cognitifs, c'est-à-dire que vous n'avez pas calculé à chaque fois tout ce que vous allez faire, etc. Mais juste vous avez un certain nombre d'habitudes, de raccourcis, qui en fait peuvent être très rationnels quelque part, ça vous économise du temps de calcul si vous voulez, et qui donc ces raccourcis cognitifs en général fonctionnent bien et vous allez avoir un comportement qui en fait est très proche du comportement que vous auriez eu si vous aviez tout calculé et qui dans certains cas vous allez être pris en défaut parce que en fait vous êtes dans une situation qui est très différente de celle pour laquelle vous avez utilisé votre raccourci. Donc ça c'est une interprétation possible. L'interprétation de Simon à la base c'était plutôt de remettre en cause l'application du modèle rationnel pour comprendre les comportements d'agrégats humains, donc pour comprendre le comportement d'une firme et de dire une firme c'est pas un patron omniscient, c'est en fait c'est toute une équipe, des départements, des luttes de pouvoir, tout un tas de dynamiques. Et donc dans le cas des syndicats, on l'a déjà évoqué d'ailleurs, donc c'est un syndicat, est-ce que c'est juste une entité unie qui maximise une fonction objective claire, ou est-ce que c'est un ensemble d'intérêts divergents, une structure de pouvoir, un jeu politique, des mécanismes de vote, etc. Et donc en fait après les économistes ont abordé ce sujet de différentes façons, mais il y a une approche qui est en fait tout à fait compatible avec la critique de Simon, qui est de modéliser au moyen de comportements rationnels la logique interne des organisations, et donc il y a tout un pan de la recherche qui regarde ça. Vous pouvez avoir une théorie rationnelle de comment fonctionne l'intérieur d'un syndicat, d'une entreprise, etc., avec toutes les logiques du pouvoir que vous voulez, qui aboutit à un comportement agrégé qui est très loin de ce qu'aurait suggéré un apport rationnel, un comportement rationnel de cet agrégat.
Thomas Breda, ça pose des questions effectivement sur est-ce que le syndicat est un agrégat d'intérêts individuels, ou est-ce qu'il pourrait y avoir une logique collective, enfin quel intérêt poursuivre, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cela, Thomas Breda?
Alors il y a clairement un intérêt collectif, hein, si on revient aux théorisations de à quoi sert un syndicat en économie. Bon, il y en a plusieurs. Il y en a une plutôt négative, qui est que ça va être un monopole sur le marché du travail, qui augmente trop le coût du travail, qui peut créer du chômage, etc. Bon, je vais vite là-dessus. Et il y en a une autre qui est que ça permet, dans une entreprise, de faire émerger des biens publics ou des biens collectifs, des biens qui servent à tous. Donc ça, c'est le, comme disaient Freeman et Madoff, qui ont un best-seller dans les années 80 sur les syndicats, c'est le bon visage des syndicats. Ils permettent l'émergence de biens publics ou collectifs qui servent à tous. Et si on n'a pas une entité qui essaye d'agréger les préférences individuelles de tous les salariés pour pouvoir ensuite se faire la voix de leurs désirs pour qu'on ait du chauffage dans un atelier ou que sais-je, quoi, tout un tas de choses qui, dans l'organisation du travail, sont importantes et collectives. Si on n'a pas cette entité-là, c'est très difficile, à cause de problèmes de passagers clandestins, c'est-à-dire, là je vais peut-être aussi un peu vite, mais à cause du problème du fait que chaque salarié individuellement n'a pas forcément intérêt à demander, il a plutôt intérêt à demander pour lui que de demander des choses qui sont utiles à tous. Donc si on n'a pas cette entité qui permet de faire remonter les besoins collectif, alors on n'a pas ces besoins et ça va être optimal de les avoir. Donc le syndicat, il sert à ça. Mais après, effectivement, comment agréger les besoins de chacun pour faire remonter les besoins collectifs ? Ça, c'est des problèmes économiques qui sont très complexes. Et la littérature sur les syndicats s'y intéresse assez peu, mais je pense qu'elle devrait s'y intéresser plus, parce que c'est une partie assez fondamentale du problème.
Il s'agit effectivement de faire le lien entre la rationalité individuelle et la rationalité collective. On va continuer à en parler dans un instant.
We must fight for in the cities and the farmlands, the trenches full of mud. Wars have always been the bosses wiser. Just laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize? When the bosses send their lackeys out to cheat us. Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child.
The Power in the Union de Billy Bragg sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Alors on a expliqué ce qu'était l'équilibre de Nash, mis au point dans les années 50, mais ce qu'on a envie de se demander maintenant, Jean-Edouard Collière, c'est ce que cet équilibre de Nash apporte à l'analyse de la grève.
D'accord. Donc en fait, il y a eu un certain nombre d'applications de ce concept. Donc équilibre de Nash et aussi équilibre de Nash, donc avec information asymétrique. Donc les modèles dont j'ai connaissance, du moins. Donc par exemple, je sais pas, un modèle assez cité de Beth Hayes, qui est une économiste qui était très prometteuse et qui est morte à 29 ans. Donc c'est très triste. Et donc elle a laissé notamment cet article. Elle a donc son idée, c'était de dire, en fait, imaginons que voilà, vous avez une entreprise. L'entreprise, peut-être qu'elle va bien, peut-être qu'elle va mal. Donc, si elle va bien, elle peut consentir une hausse de salaire. Si elle va mal, elle peut pas consentir une hausse de salaire. Et les employés ne le savent pas. Donc ça, c'est une asymétrie d'information, c'est-à-dire que le syndicat, par exemple, ne sait pas si vraiment la conjoncture est mauvaise ou non. Et donc, que va faire le syndicat ? Le problème, c'est que l'entreprise, elle va avoir intérêt, j'en reviens encore à Rabbi Jacob, elle va avoir intérêt à dire, mais la conjoncture est mauvaise, nous ne pouvons rien faire, etc., même quand c'est faux. D'accord ? Donc, comment faire ? Si juste vous dialoguez comme ça, vous allez arriver à rien, parce que vous n'allez jamais révéler de l'information simplement en discutant. Mmh. Et donc là, quelle est la théorie de la grève qui se dégage de ça ? C'est qu'en fait, le syndicat, c'est un petit peu comme s'il disait, écoutez, c'est très simple, vous pouvez soit nous donner une augmentation aujourd'hui, et on fait pas grève, soit on fait une grève et on aura et on acceptera de ne pas être augmenté, par exemple. Et donc là, en quoi ça résout un petit peu le problème, c'est que ça permet au patron de l'entreprise de dire, bah, si effectivement la conjoncture est mauvaise et qu'il peut absolument pas consentir une augmentation de salaire, il va être obligé d'accepter cette solution grève. Si c'est pas vrai et qu'au contraire il a envie de beaucoup produire, il va préférer ne pas avoir la grève et accepter aujourd'hui. Donc on voit bien qu'en fait, la grève sert un petit peu, et je trouve que c'est une idée intéressante parce que c'est de la microéconomie. En fait, dans la microéconomie, la grève est une espèce d'outil pour résoudre un problème informationnel. Donc la grève a une utilité, elle sert à quelque chose. C'est pas forcément un outil optimal, d'ailleurs certainement pas, mais c'est un outil.
C'est un outil face à la rétention d'informations qui peut être mise en œuvre par la direction, Thomas Breda.
Oui, oui, absolument. Et donc peut-être pour rebondir sur le petit cours introductif qu'on a fait de théorie des jeux avec l'équilibre de Nash, du coup on va modéliser ça dans des jeux de négociation dont on a aussi un peu parlé, c'est-à-dire que chaque jour, chacune des parties va faire une offre, c'est-à-dire le syndicat va dire, bah voilà, je propose que le salaire des salariés ce soit ça aujourd'hui, puis le lendemain l'employeur peut décliner, faire une contre-offre, etc., puis on continue à jouer comme ça. Et tant qu'on s'est pas mis d'accord, il y a grève. Par exemple, bon, il y a des versions différentes, mais on peut supposer qu'il va y avoir grève tant qu'on s'est pas mis d'accord. Dans la version de base du jeu, avec information parfaite, on va se mettre d'accord tout de suite, parce que on anticipe que chaque jour perdu à négocier est une perte de profit et de salaire, et donc on se met d'accord tout de suite. Mais quand il va y avoir grève, et ben on peut, quand il va y avoir information imparfaite, c'est-à-dire que les salariés sont pas au courant la profitabilité de l'entreprise, il peut y avoir grève, et donc la grève est un équilibre de Nash dans ce jeu-là. C'est-à-dire que c'est une situation optimale de laquelle les parties n'ont pas intérêt à dévier.
Je voudrais vous faire entendre un dernier son. C'est Jean-Christophe Perrault, qui est professeur d'économie à l'Université de Bordeaux.
Alors on pourrait se contenter de la solution, mais le processus lui-même est aussi très intéressant. Et dès qu'on entre dans le processus, bien évidemment, c'est très riche, ça dépend de plein de petites choses. Et évidemment, dans cette dimension-là, eh bien, il y a plein de choses qui peuvent se passer. On peut quitter la table des négociations, on peut mettre des menaces, on pourrait très bien feindre comment a mis de la colère, on peut s'amuser effectivement à introduire plein d'éléments. Après, le problème, c'est d'être amené, d'un point de vue théorique, ça va être de trouver des mécanismes, des procédures qui vont faire que, par exemple, un agent aura plus de pouvoir de négociation qu'un autre. C'est quelque chose qui doit venir, effectivement, ici du jeu. Ça peut être, par exemple, est-ce que vous pouvez négocier de manière séquentielle ou de manière simultanée? Est-ce que vous avez le droit d'exercer, des options externes, de dire, je quitte la négociation pour avoir autre chose? Donc, en fait, tout ça, ce sont des éléments qui doivent être spécifiés. Et en fonction de ça, vous pouvez même avoir des résultats différents selon la négociation.
Ce qu'on entend bien ici, à Thomas Breda, c'est qu'il est absolument nécessaire, pour bien comprendre le comportement des grévistes, mais aussi des patrons, donc il est nécessaire d'étudier le processus de la prise de décision plutôt que la décision elle-même.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que le contexte dans lequel on va négocier, ou même peut-être les institutions qui encadrent la façon dont on va négocier, vont jouer un rôle très important. Et les stratégies d'acteurs peuvent aussi jouer. C'est-à-dire que un syndicat, là c'est peut-être toujours en théorie des jeux, on peut modéliser une situation où, par exemple, un syndicat va avoir intérêt à faire grève pour construire une réputation, pour augmenter sa crédibilité à négocier. Donc ça rejoint un petit peu cette citation où il va y avoir des stratégies qui peuvent être utiles, et on peut, alors certaines c'est plus la psychologie comportementale qui va permettre d'en rendre compte, l'économie rend pas compte de tout, mais on peut aussi modéliser en théorie des jeux un certain nombre de comportements où on va faire grève, un peu dans l'optique de cette citation, pour avoir une meilleure réputation sur le long terme, pour faire croire à l'employeur qu'on est un syndicat dur, prêt à négocier fort. Et faire grève peut aussi être utile dans ce sens-là.
Mais effectivement, la théorie des jeux n'est peut-être pas suffisante, et l'économie comportementale peut apporter d'autres aspects, puisqu'on ne peut peut-être pas modéliser de la même façon, Jean-Édouard Collière, par exemple, la volonté de voir son salaire augmenter et le sentiment d'humiliation qui peut être un facteur de décision important dans le fait de se mettre en grève, par exemple.
Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs pas du tout contradictoire. En fait, je pense que comme beaucoup de phénomènes économiques, il y a des explications très complémentaires, dont certaines sont très stratégiques économiques, d'autres plus sociologiques, d'autres plus psychologiques, etc. Quelqu'un qui illustre bien ça, je pense, dont j'aurais voulu mentionner le nom, c'est Elinor Ostrom, par exemple, qui est une prix Nobel d'économie, qui a justement travaillé sur des modèles de théorie des jeux aussi de manière expérimentale, en montrant que les gens, en fait, dans ces problèmes de justement de biens communs dont a parlé Thomas, en fait, typiquement, ils avaient tendance à être très coopératifs, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts, en fait, à se sacrifier pour le bien commun dans une certaine mesure. En revanche, et donc tout ça c'est des expériences, hein, donc en simulant un petit peu des jeux avec des étudiants par exemple. En revanche, quelque chose qu'ils détestaient, c'est être pris pour les dindons de la farce. Et donc quelque chose qui en fait menait à des solutions collectivement extrêmement dommageables où les gens cessaient complètement de coopérer, c'est quand il y avait un sentiment d'injustice. Et donc là, je trouve ça intéressant parce que c'est un endroit où la théorie des jeux cesse un petit peu de prédire et où des choses un petit peu plus psychologiques et sociologiques reprennent l'endroit. Hein.
Thomas Breda.
Oui, alors ça rejoint un peu les questionnements sur la rationalité, c'est-à-dire que les économistes, pour leur modèle, ont toujours besoin de supposer que des agents ont un objectif. Ils ont une fonction objective, une fonction de bien-être qui maximise, une fonction de profit qui maximise. Et on peut toujours rationaliser des comportements en changeant la fonction objective. C'est-à-dire que dans les modèles de base, on va supposer que les gens sont intéressés par avoir plus de salaire dans la négociation. Mais on peut aussi supposer que se faire humilier a un coût en termes de bien-être très important. Et donc, leur objectif, c'est aussi de ne pas être humilié. Ou en tout cas, ils sont prêts, ça leur fait du bien de se mettre en grève et de être dur avec le patron s'ils ont été humiliés. Mmh. Donc on peut rationaliser aussi, ex post, tout un tas de comportements de cette façon-là.
Alors on arrive presque au terme de cette émission. Peut-être que vous pourriez apporter une réponse à cette question qu'on s'est posée sur la rationalité des agents, qu'ils soient du côté des salariés ou du côté des chefs d'entreprise. Et cette question autour des grévistes comme Homo Economicus, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Édouard Collia?
Je pense que c'est difficile de savoir empiriquement est-ce que les grévistes sont des homo economicus ou pas. C'est-à-dire que je pense plutôt que les incitations économiques ont toujours un impact qui peut être plus ou moins grand selon les cas, selon les applications. Et en général, on comprend toujours des choses en regardant ce type de modèle. Ce que je retiens surtout des modèles de la grève, c'est l'idée que la grève n'est pas juste un phénomène irrationnel qui serait dû à l'idiotie des gens ou je sais pas quoi. C'est au contraire un phénomène rationnel qui répond à un problème et qui est en fait généré par des problèmes d'information. Et si on trouve que la situation est mauvaise, et elle l'est, à nouveau, la grève c'est à la base un immense gâchis pour les deux côtés de la négociation. C'est pas que les acteurs sont irrationnels, c'est que le jeu auquel ils jouent est un jeu où leur intérêt va être d'aboutir à ce genre de situation. Ça veut dire qu'il faut changer le jeu, ce qui peut vouloir dire une meilleure communication de l'information, plus de transparence, des incitations différentes. Et ça va toujours être le point de vue des économistes, de la microéconomie là-dessus, c'est qu'il ne faut pas changer les joueurs, il faut changer le jeu auquel ils jouent.
Et du côté des forces en présence, j'imagine qu'on préférera parler de négociation que de jeu. Mais Thomas Breda, votre conclusion?
Elle rejoint celle de Jean-Édouard. Je crois que dans des modèles économiques assez simples, on arrive à rendre compte de la grève comme quelque chose de rationnel. Alors on critique toujours beaucoup les principes de l'homo economicus rationnel. Je pense que c'est plutôt un bon principe. C'est difficile de dire que les gens vont prendre des décisions qui vont contre leur intérêt. En le disant de manière très simple comme ça, je crois que on peut soit se dire qu'on comprend assez mal qu'est-ce qui motive les individus, pourquoi ils font les choses, et dans ce cas-là, il faut essayer de mieux comprendre quel est l'intérêt des individus. Soit on s'en tient au modèle qu'on a déjà et qui permettent de rendre compte avec des asymétries d'information de grève.
Et c'est l'heure pour nous de retrouver le journal de l'Écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Alors que la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, déclare la COP25 de Madrid point de départ du European Green Deal, le débat s'amplifie quant aux leviers économiques pour y parvenir.
Et oui, je rappelle que l'objectif de ce nouveau pacte vert reste de parvenir à la neutralité carbone en 2050 et selon les Échos, trois leviers seraient employés par la Commission européenne pour y parvenir. D'abord, l'instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. européenne, des investissements dans l'innovation verte et aussi une réglementation plus poussée pour définir ce qui est vert et ce qui ne l'est pas et éviter le greenwashing. Toutes ces mesures font débat actuellement, notamment le prix des quotas carbone, la taxe carbone, souhaitée notamment par la France, conditions nécessaires à la décarbonation de l'Union européenne pour certains ou protectionnisme aveugle pour d'autres. Plus étonnant, c'est aussi la Banque Centrale Européenne qui est sollicitée pour agir en faveur du climat via la régulation bancaire, même si hier Christine Lagarde est restée réservée sur cette option. Restent maintenant les financements promis par Ursula von der Leyen, 1000 milliards d'euros sur 10 ans, un chiffre qui surtout jusqu'ici a permis de se faire élire par le Parlement, prévient Grégory Kless, il est économiste à l'Institut Bruegel de Bruxelles.
Ça paraît être un chiffre important. Néanmoins, nous, on a écrit un papier avec des collègues de Bruegel sur ce sujet de l'investissement nécessaire pour réussir la transition. Et du coup, on trouve un chiffre beaucoup plus important, en fait, de 300 milliards par an supplémentaires nécessaires en termes d'investissement. Donc, avec le chiffre de von der Leyen, on est loin de ça. On est à 100 milliards par an, puisque c'est 1000 milliards sur 10 ans. Donc, ça paraît beaucoup. Mais tout le monde va devoir participer. En premier lieu, vu que c'est censé être un grand plan vert européen, eh ben, il va falloir aussi verdir le budget européen qui est pour l'instant pas très vert. Même quand on regarde par exemple la PAC, en fait il y a plein de rapports qui montrent que la PAC est assez nuisible en termes d'émissions de CO2. La deuxième chose, comme vous le disiez, c'est la BEI qui elle aussi pendant des années a financé des projets qui étaient polluants ou des autoroutes ou des projets liés aux énergies fossiles. Donc là il va falloir aussi réformer la BEI pour en faire vraiment une banque du climat. Mais finalement le budget européen il est assez petit. Et ces deux outils européens que sont le budget et la Banque européenne d'investissement ne suffiront pas. En fait, il va falloir aussi que l'investissement public au niveau des États soit lui aussi mis à contribution. Parce que finalement, quand on regarde l'investissement public en Europe, il vient essentiellement des États membres plutôt que de l'Union. Donc ils vont devoir aussi jouer un rôle.
Une des propositions serait d'instituer des budgets séparés pour les investissements verts afin de ne pas peser sur les déficits budgétaires.
Et oui, vous savez tous, c'est une des propositions de l'Institut Bruegel. Restera à convaincre les États. Pour l'instant, trois au moins, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, sont réticents à accélérer la décarbonation que voudrait faire Ursula von der Leyen pour 2030. Quelques pistes pourraient filtrer lors de la prochaine réunion de l'Eurogroupe cette semaine qui doit justement réviser les règles budgétaires avant les propositions de la présidente de la commission dans 10 jours.
On passe au bref, un allègement de taxes sur le carburant au cœur du conflit entre le secteur du BTP dans l'Ouest et le gouvernement. Le blocage des dépôts pétroliers cesse peu à peu, mais rien n'est réglé, Xavier.
Ils sont écœurés, c'est ce que dit l'un des artisans à l'AFP qui a levé le blocage du dépôt de Brest. Malgré une réunion hier et ce qui semblait un accord entre les syndicats et le ministre des Finances, les travailleurs du BTP continuent de protester contre la suppression progressive de l'allègement de taxes sur le GNR, c'est le gazole non routier qu'ils utilisent dans leurs engins de chantier. Cette taxe de 20 centimes par litre au lieu de 60 pour le diesel est aussi une niche fiscale qui rapporterait 1 milliard d'euros à l'État si elle était supprimée en 2022. Mais le BTP demande 5 ans de délai pour s'adapter. Alors un an après le conflit des Gilets jaunes, c'est un nouveau test peut-être pour la fiscalité écologique sur les carburants.
Et pour finir, un fait divers dramatique et beaucoup de questions au sujet du naufrage d'un navire chargé de moutons en Roumanie au lieu de l'élevage ovin en Europe.
Oui, c'est un chavirage qui s'est produit il y a une dizaine de jours et qui s'est terminé tragiquement vendredi par la mort d'environ 14 600 moutons noyés à Fontcale sur ce cargo à demi-couché. Ce n'est pas la première fois qu'un tel fait se produit en Roumanie. La Commission européenne avait déjà lancé une enquête cet été après qu'à plusieurs reprises, des dizaines de milliers de moutons ont été transportés vers le Golfe en pleine canicule sur des navires non équipés. Pour le cargo de l'affaire, il est listé à la fois comme transporteur, j'ai vérifié, de véhicules et d'animaux. Alors pour ne pas perdre sa place privilégiée de fournisseur du Golfe et troisième éleveur ovin européen, Bucarest se lave pour l'instant les mains d'un règlement européen et les moutons trinquent.
Thank you.
on se quitte avec Affé de Mocado. Merci beaucoup Thomas Breda et Jean-Edouard Colliard de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, les grèves pénalisent-elles la croissance? On posera la question à Thomas Coutreau et Jean-Marc Daniel. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.